7h50 à Paris, notre invité ce matin est astronome, astronome à l'Observatoire de Paris, directeur scientifique adjoint de l'Institut National des Sciences de l'Univers du CNRS. Bonjour et merci d'être avec nous Guy Perrin.
Oui, bonjour.
On part dans l'espace aujourd'hui à 11 années-lumière de Paris. On vient de découvrir une planète très proche de notre système solaire. Est-ce que l'on peut parler, Guy Perrin, d'une cousine de la Terre ?
Alors c'est en effet une sorte de cousine de la Terre, hein, une cousine un peu éloignée, mais c'est une cousine de la Terre, dans la mesure où cette planète a une masse qui correspond à peu près à celle de la Terre, un peu supérieure en tout cas, et dans un voisinage d'une étoile, alors, qui n'est pas tout à fait une cousine du Soleil, mais qui est une étoile, disons, assez de masse assez faible pour pouvoir avoir des caractéristiques intéressantes.
Alors ça veut dire, comme vous le dites, qu'elle tourne autour d'une étoile, un peu comme nous on tourne autour du Soleil, et que ce Soleil ne cogne pas trop fort, si l'on peut dire ?
Oui, alors c'est une étoile qui est beaucoup plus froide que le Soleil, et du coup sa luminosité est moindre, et la planète reçoit beaucoup moins de lumière de la part de cette autre étoile.
Donc ça veut dire que la température est plutôt correcte et qu'on peut imaginer qu'elle soit relativement modérée sur place.
Alors la température dépend bien sûr des conditions physiques de cette planète, mais on estime qu'elle est de l'ordre de la température qui règne à la surface de la Terre, donc c'est une planète assez tempérée, oui.
Pourquoi est-ce que l'on parle de signes de vie possible?
Ah, alors ça c'est tout un débat, mais c'est aussi dans la direction dans laquelle nous allons aujourd'hui. On parle de signes de vie possible parce qu'en fait, on pense que pour qu'il y ait de la vie, il faut qu'il y ait de l'eau. Voilà. Et pour qu'il y ait de l'eau, il faut qu'il y ait de l'eau liquide, en fait. C'est ça qui nous intéresse. Et donc, il faut avoir une planète qui a des bonnes caractéristiques, un peu comme celle de la Terre, et qui soit justement dans cette zone tempérée, dite zone habitable, où l'eau puisse être à l'état liquide.
Donc, en toute hypothèse, ça pourrait être le cas de cette planète qu'on vient de découvrir.
Voilà. Donc, c'est un candidat, en fait, sur laquelle rechercher des signes biologiques, mais plus tard, lorsqu'on aura déjà découvert de l'eau liquide.
Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Parce que c'est pas la première fois qu'on découvre une planète qui ressemble à la Terre, hein, potentiellement habitable. On en a peut-être déjà une cinquantaine aujourd'hui. Qu'est-ce que celle-ci a de spécial?
Alors celle-ci a de spécial qu'elle est précisément dans la zone habitable, qu'elle n'est pas très loin et qu'on devrait être en capacité d'ici quelques années de pouvoir rechercher justement cette eau liquide, enfin d'abord de pouvoir rechercher une atmosphère autour de cette étoile, parce qu'on pense que parce qu'on pense que l'étoile est suffisamment peu active en fait pour permettre à une atmosphère d'exister autour de la planète. Voilà. Et donc c'est ça qui en fait un candidat très intéressant.
Donc pour l'instant, on pense qu'il y a peut-être de l'eau liquide, enfin il pourrait y avoir de l'eau liquide, peut-être une atmosphère. On ne le sait pas encore. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas les outils ?
Parce qu'on n'a pas les outils, parce que surtout on n'a pas encore pu mettre en marche les outils pour pouvoir faire cette détection. Et puis il faut encore un peu de temps avant que ces outils soient disponibles.
Comment on les détecte, ces planètes, si on n'a pas les outils ?
Ah, alors on a quand même les outils pour voir que la planète existe. Voilà, donc aujourd'hui, ce que l'on fait, en fait, c'est que l'on mesure, dans le cadre de celle-ci, on mesure la vitesse de l'étoile, voilà, comme avec une sorte de radar, et on voit que l'étoile bouge.
Le Soleil par rapport à la Terre, vous voulez dire.
Exactement.
C'est comme si on mesurait la vitesse du Soleil.
C'est comme si on mesurait la vitesse du Soleil, et effectivement, à cause de l'attraction des planètes du système solaire, en fait, le Soleil bouge un petit peu, il a un mouvement réflexe. Et c'est ce mouvement réflexe que l'on a détecté qui a permis de voir, entre guillemets, cette planète.
L'an dernier, on a parlé de la planète Proxima B. Alors, c'est à peu près la même chose. Composition sans doute proche de la Terre, dans un système très proche de nous. Donc ça, c'était en 2016. Cette année, 2017, on découvre donc cette nouvelle planète. En 2 ans, 2 découvertes qu'on peut considérer comme très importantes. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ces découvertes s'y rapprochées ?
Alors, il y a 2 raisons fondamentales. D'abord, les instruments sont là, avec les bonnes caractéristiques, les bonnes sensibilités, là en vélocimétrie radiale. Et puis deuxièmement, on a affiné au fil du temps, ça fait 20 ans qu'on détecte des planètes extrasolaires maintenant, on a affiné au fil du temps le type d'étoiles autour desquelles on cherche ces planètes extrasolaires. Donc là, on s'intéresse à des étoiles un peu plus froides que le Soleil, un peu moins massives, qui présentent de bonnes caractéristiques, c'est-à-dire pour lesquelles les signaux de présence de ces planètes sont plus forts.
Quand vous dites qu'on a affiné les critères, ça veut dire qu'on cherche véritablement des signes de vie. C'est pas une lubie de journaliste. C'est-à-dire que la communauté scientifique se penche vraiment sur ce problème.
Oui, ça c'est un objectif, disons, long terme, hein, qui est de chercher des signes de vie. Et on s'est fixé une recette, en gros, un processus pour pouvoir y parvenir. Et le processus, c'est de détecter des terres ou des super-terres, ensuite de détecter l'atmosphère, de détecter de l'eau liquide. Et lorsqu'on aura ces ingrédients, on pourra se poser effectivement la question de la présence d'une activité biotique.
Où en est la France dans cette compétition déjà? Est-ce qu'il y a une compétition mondiale sur ce thème? Et à votre avis, comment se positionne la recherche française? Ou est-ce que c'est très international finalement? Il n'y a pas vraiment de compétition entre les pays?
Alors, dans la recherche moderne, c'est toujours un peu un mélange des deux, c'est-à-dire que c'est un milieu très international, donc on a l'habitude de collaborer avec des collègues étrangers, et en même temps, on est en compétition. Voilà, donc c'est un mélange un peu de ces deux situations. Là, en l'occurrence, on est très très bien placé. Là, c'est un article qui annonce cette découverte qui est publiée par un de nos chercheurs de Grenoble, hein, à l'IPAG, à Grenoble, Xavier Bonfils. Donc le fait qu'il soit premier auteur montre que la France joue un rôle important et on est présent dans diverses collaborations et sur divers instruments. Donc on est très très bien situé dans ce champ scientifique.
Pour vous, la vie ailleurs que sur Terre, hein, en tant que chercheur, si vous deviez faire un pronostic, probabilité d'une vie extraterrestre sur une échelle de 1 à 10,
Alors, je ferai pas de pronostic. Par contre, j'ai des espoirs, oui, qu'on trouve ça, oui, qu'on trouve ça,
ça vous
notamment.
semble probable, possible, imaginable?
Ça me semble pas impossible.
D'accord, réponse de scientifique acceptée. L'avenir dans ce domaine de la recherche spatiale, ce genre de planète, ça va continuer? Vous pensez qu'il y en a encore beaucoup, j'imagine, sous le tapis?
Ah oui, on en est au tout début là. J'ai regardé ce matin avant de venir. Nous en sommes aujourd'hui à peu près à 3 700 planètes découvertes. Donc ça veut dire que le phénomène de planète autour d'une étoile est tout à fait banal probablement. Et des étoiles, rien que dans notre galaxie, il y en a 200 milliards. Vous voyez, donc on n'est pas encore au bout de l'histoire. Ça fait 20 ans qu'on a, 22 ans maintenant qu'on a découvert la première, et c'est un domaine qui est en pleine explosion. Donc non, ça ne va pas du tout s'arrêter. On va continuer et on fait d'énormes progrès à chaque fois. On a commencé par des planètes qui étaient des planètes de type Jupiter, donc des
C'est-à-dire?
planètes très massives.
Ouais.
Mais
Parce que
en
c'était
tout,
les plus grosses, vous voulez dire?
c'était les plus grosses, donc c'était les signaux les plus faciles à détecter. Et voyez, aujourd'hui, on en est à détecter des terres qui sont moins massives, avec une atmosphère peut-être, mais très très ténue par rapport à une boule de gaz comme Jupiter. Donc non, on continue et la flèche du temps est tout à fait favorable pour nous.
La suite maintenant avec les nouveaux outils que vous décriviez, qui doivent arriver, je crois, dans les années 2020,
Oui.
qu'est-ce que ça va apporter de plus?
Eh bien, une grande question maintenant, c'est détecter des atmosphères autour de ces planètes supposées être des analogues de la Terre. Vous voyez, donc les atmosphères et puis ensuite l'eau liquide. Donc c'est ça qu'on cherche à faire dans les 10, 15, 20 ans qui viennent.
Vous voyez des laboratoires de pointe, il y a des gens qui sont plus ou moins bien positionnés sur ce thème, dans ces dossiers.
Absolument, oui.
Lesquels?
Alors, lesquels, ben, je vous ai parlé d'un
Grenoble,
institut à Grenoble, oui.
ouais.
Nous avons aussi un institut à Marseille, le laboratoire d'astrophysique de Marseille. Vous avez plusieurs laboratoires en région parisienne aussi, dont l'Observatoire de Paris, dont je viens. Non, il y a beaucoup d'instituts qui sont très à la pointe et qui promettent de nouvelles découvertes,
Merci beaucoup, Guy Perrin. Astronome à l'Observatoire de Paris, je le rappelle, et directeur adjoint scientifique de l'Institut national des sciences de l'univers du CNRS, le Centre national de la recherche scientifique. Merci à vous d'avoir été avec nous en studio sur l'antenne des RFI.